Le complot des cagoles, une émission féministe, tous les premiers mercredis du mois sur Radio Galère 88.4. Attention, les cagoles complotent.
Voilà.
Toi et moi, shabadabada, shabadabada, la la la, shabadabada, shabadabada, la la la, shabadabada, shabadabada, la 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 la. Shabadabada, shabadabada. La la la, shabadabada, shabadabada. La 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 la.
Ah, l'amour, cet amour qui nous pousse l'un vers l'autre depuis toujours, vers le couple parfait qui unit dans une même pulsion, une même fusion, hommes et femmes pour la vie. Quoi les filles, vous trouvez ça trop dégoulinant? Pourtant, on nous a toujours dit que cela se passe ainsi depuis la nuit des temps. Qu'il nous faudra toute notre vie pour suivre la quête de ce but naturel. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non? La dernière case ne vous convient pas? Mais remarquez, il y en a d'autres qui se posent des questions, qui se demandent si cette quête d'amour romantique est aussi naturelle qu'on le dit, si depuis toujours, l'homme et la femme sont destinés à former un couple unique, à l'exclusion de toute autre pratique jugée contre nature, anormale, déviante, bref, à faire disparaître. En fait, où elle est la nature là-dedans? Est-ce que l'amour homme-femme, c'est si naturel que ça? À ce sujet, on a eu envie de vous parler d'un bouquin qu'on a bien aimé, qui s'appelle « L'invention de la culture hétérosexuelle » de Louis-Georges Eutin, publié en 2004. L'invention de la culture hétéro, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au lieu d'étudier, par exemple, l'homosexualité dans telle société, l'auteur a choisi de questionner un truc qu'on questionne jamais. Comment l'amour homme-femme s'est petit à petit placé au centre de notre conception de la vie? Et oui, comme le montre Louis-Georges Eutin, c'était pas si évident que ça au début. Sans parler des Grecs pour qui l'amour et le désir, c'était surtout une question d'homme, même dans notre belle Gaule, les choses n'allaient pas autant de soi. En fait, le Moyen-Âge connaît plutôt l'homosocialité, c'est-à-dire la valorisation des moments et des espaces réservés aux hommes. D'ailleurs, les deux ordres valorisés, c'est les chevaliers et les prêtres. Les femmes, c'est pas vraiment digne d'intérêt. Et les hommes, quand ils fréquentent trop de femmes, ils deviennent un peu trop efféminés. Mais il se passe un truc assez intéressant vers le XIIe siècle. Tout à coup, cet amour homme-femme dont on ne parlait jamais avant commence à prendre de la place dans les discours et les représentations. On commence à célébrer l'amour courtois, et à regarder d'un mauvais œil les rapports trop proches entre les hommes. Quoi? On vous a jamais parlé de ça à l'école? Pourtant, il y a plein de petites histoires croustillantes. Écoutez donc.
Des histoires. Je vais vous raconter des histoires, mais lesquelles? Ben, pendant 1000 ans, chez nous et dans toute l'Europe, on ne se racontait pas d'histoires de couple. C'était pas inventé. Adam et Ève, c'était pas si important. L'adultère, on s'en foutait un peu. La sexualité aussi, on l'avait pas inventée. En tout cas, c'était pas un sujet de conversation ou de roman. Alors, de quoi parler les films?
Ah oui.
En fait, les chansons de gestes et autres épopées en 50 000 vers. Bref, la culture officielle. De quoi ça parlait?
Ouais.
Ben, ça parlait d'amour, évidemment. Et ça dégoulinait bien de partout comme maintenant, avec des serments, des trahisons, des moments de tendresse dans la prairie. Mais c'était entre les gens qui comptaient à ce moment-là, c'est-à-dire les chevaliers. La table ronde, la quête du Graal, Roland à Roncevaux, ça vous dit quelque chose? Le souvenir d'école? C'est la culture française quand même, la grande. On s'est invité dans une soirée entre chevaliers pour capter l'ambiance et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est beau, hein. Ça, c'est pas de la musique de PD. Alors maintenant, on va vous donner les paroles, c'est-à-dire la chanson de Roland, grand texte de la culture européenne. Je vais vous dire exactement les vers 5952 à 5967. C'est pas inventé. Sire Roland, c'est un certain Olivier qui parle. Je ne vous le cache plus, je vous aime plus que tout homme né de femme. Je suis heureux de vous donner ma sœur, et par ce contrat prévu, notre accord sera scellé. Maintenant, déplacez ce home vert orné de pierreries afin que nous puissions échanger baisers et accolades. Roland répond « Très volontiers ». Alors, ils retirent leur armement et s'échangent avec joie des baisers sincères. Assis tous deux sur l'herbe verte, dans le pré, ils se jurent d'être amis pour la vie. Wow. C'est encore mieux dans le roman d'Attis et Profilias, un grand classique aussi, où on voit des choses comme « Je suis à toi, tu es à moi, tous deux, nous ne sommes qu'un seul être ». Et ça continue avec le happy end de Ami et Amil, mais il y en a des centaines comme ça. Tous deux se donnent des baisers fougueux, s'embrassent et s'étreignent, avec une tendresse si violente que pour un peu, ils s'étoufferaient et se tueraient l'un l'autre.
C'est chaud.
C'est très chaud. C'est l'amour au temps des chevaliers. Avant qu'on invente le prince charmant, il faisait ça. Donc il y a quand même des hommes qui passent du temps avec leurs femmes. Et cela, c'est dommage, on les appelle des femmelettes. Et on critique leur récréantise. Il y a un mot pour ça. Récréantise, ça veut dire mollesse de l'homme qui l'attrape en restant trop souvent avec sa femme. C'est arrivé à un certain Erec. C'est aussi dans une autre chanson de geste. Et son épouse elle-même s'est plainte qu'il était trop prévenant. Alors, il est reparti aux croisades pour récupérer sa virilité avec les autres chevaliers. Voilà, les chevaliers se jurent mutuellement fidélité, mais pas seulement dans des chambres ou sur des prairies, mais aussi devant le roi et surtout dans des cérémonies officielles. Leur relation est publique autant que privée, comme celle du vassal à son maître. Parce que dans le système féodal, le personnel est politique. Tous les chevaliers liés comme ça, deux par deux et en chaîne, ça fait un esprit de corps, une cohésion très utile au pouvoir monarchique. On va voir ce que ça donne l'esprit de corps quand ils sont vraiment très heureux. Copines qui disent pas trop non plus, alors pas trop non plus les chevaliers. D'ailleurs, c'était beau, mais c'était très beau, mais ça n'a pas duré. Entre le 12e et le 13e siècle, les élites européennes ont changé d'avis. Pas comme ça, non. Ça a été long et douloureux. On a été obligé de réécrire plein de versions différentes des vieilles légendes pour les traduire à la nouvelle mode, la nouvelle normalité, l'hétérosexualité. Ouais. Par exemple, Tristan et Iseut. Ça vous dit quelque chose quand même.
Ouais.
Bon. Il y a des dizaines de versions, il faut le savoir. C'est un mythe qui se réécrit en permanence. Et dans la musique aussi, par exemple, « Lamento de Tristano », il y a plein de versions. Donc on va écouter deux versions. La première du 12e siècle. Dans cette première version, l'amour entre guerriers est totalement naturel. Et même entre oncle et neveu, comme le sont Tristan et le roi. Le roi avait tant d'affection pour Tristan que par amour pour lui, il ne voulut pas prendre d'épouse. Cela déplaisait fort à ses pas. Il résiste, le roi, Mais finalement, il décide de noyer le poisson et dit qu'il épousera une femme, oui, mais seulement celle à qui appartient ce cheveu arrivé là par hasard. Tout le monde suit. Il prévoyait que la retrouver allait prendre un certain temps. D'accord ? Ouais. Tristan, lui aussi, est sous pression, parce qu'on l'accuse de vouloir secrètement garder le roi pour lui tout seul. Alors il doit prouver le contraire, et Tristan prend le cheveu, il part chercher la femme, il trouve la femme, et il la ramène à son oncle en bateau. C'est beau, c'est éthique, c'est l'éthos chevaleresque. L'histoire aurait pu très bien finir, c'est-à-dire que Tristan et son oncle filent le parfait amour pendant que la femme pond des héritiers, mais non, patatras. Tristan et la jeune femme sur le bateau boivent par erreur un philtre d'amour, qui fait effet pendant 3 ans. À la fin, Tristan est banni du château, il est loin de son oncle qui l'aimait tant et il est désespéré. Ah, les femmes. Dans cette version, l'amour entre hommes est normal, on ne se demande pas d'où ça sort. Par contre, l'amour entre Tristan et la femme, ça vient pas tout seul, il faut un truc, par exemple un philtre. C'était le 12e siècle. Version suivante, 13e siècle. Là, on a une variante hétérosexuelle. On a la même histoire de mariage forcé et de cheveux d'or, et Tristan et Iseult sur le bateau de retour, mais c'est plus tout à fait la même histoire. Lamento, 2e version. Voilà, cette fois, c'est sans filtre. C'est-à-dire que c'est le coup de foudre, comme ça, sans rien. C'est la nature qui pousse Tristan et Iseult dans les bras l'un de l'autre.
Génial.
Ce qui change tout. Et comme l'oncle aussi aime la femme, et comme les histoires d'amour finissent mal en général, Si c'est pas ce qu'on vous avait appris à l'école, c'est pas étonnant, on a fait plein de versions encore plus franchement hétérosexuelles depuis. Donc, les élites culturelles, politiques et religieuses s'occupent de construire l'idée de couple homme-femme comme début et fin de tout. Mais c'est pas évident. Et donc on arrive à des scénarios absolument impensables aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce qu'on se trouve comme histoire de Lancelot du Lac ? Lancelot du Lac, tout le monde suit. Eh bien, Lancelot du Lac, il a un amoureux fou, un certain Galéo. Et là, comme on est déjà au XIIIe siècle, il y a un problème. Lancelot passe ses nuits à pleurer parce que sa dame lui manque. Et Galéo est près de lui. Galéo lui baise la bouche et les yeux et le réconforte doucement, mais en vain. La dame des rêves de Lancelot est la reine. Elle est mariée, c'est pas grave. L'amour courtois, c'est forcément adultère. Tout le monde suit ? Donc la dame, elle veut voir Lancelot.
Ouais.
Et elle demande à Galéo d'organiser un rendez-vous.
Ouais.
Bon, c'est dur pour Galéo, mais il le fait. C'est éthique. Pendant le rendez-vous, Lancelot est tout transi d'amour, il peut pas parler. Alors c'est Galéo qui parle à sa place. Il demande à la reine d'accepter que Lancelot se donne à elle. Et elle dit oui, bien sûr. Et Lancelot lui appartient.
Hein?
Mm-hmm. Alors, pour remercier Galéo, elle lui donne quoi ?
Quoi ? Je sais pas.
Non, elle lui donne qui ? Elle lui donne Lancelot.
Ah bon ?
Ouais. Oui, elle lui rend, en fait. C'est-à-dire que maintenant que Lancelot lui appartient... Elle peut donc autoriser Galéo à en profiter toute la nuit, s'il veut. Donc Galéo, maintenant qu'il a le droit de jouir de Lancelot, c'est écrit comme ça, il l'emmène dans sa tente, et c'est écrit comme ça dans le texte, les deux amis passent toute la nuit dans le même lit à parler d'un cœur joyeux.
Youpi.
Mais c'est pas fini, parce qu'on est toujours en pleine transition vers la culture hétérosexuelle. Donc l'auteur en rajoute un peu. La reine donne aussi une épouse à Galéo.
C'est éthique.
Et ils passent toutes les nuits suivantes à 4. Galéo, son épouse, Lancelot, la reine. Puis Galéo part à la guerre et c'est fini. C'est-à-dire que l'auteur a un peu de mal à trouver quoi faire avec tous ces couples hétérosexuels. On ne fait pas 30 000 vers avec un petit bonheur hétéro. On ne s'est pas encore fait. Avant, on faisait 30 000 vers avec le bonheur des chevaliers. Donc voilà, en 2 siècles, le tournant était pris. Le couple homme-femme est installé, plus ou moins. Ça n'a pas fait que des heureux. Il y a eu 2 victimes principales, les Templiers et les femmes. Les Templiers étaient des moines soldats qui devaient secourir le temple de Jérusalem pendant les croisades. Ambiance des Templiers, on peut avoir l'ambiance sonore. Voilà, et voilà. Hymne officiel. Ah. Les Templiers, c'était un modèle de homosocialité. Ils faisaient tout ensemble, du matin au soir et du soir au matin. Ils étaient admirés, riches, puissants. Peut-être trop puissants. À la fin du XIIIe siècle, ils se font arrêter. Ils se retrouvent devant les juges de l'Inquisition. Ils n'avaient pas vu le changement culturel majeur, et ça, c'est dommage pour eux. Donc, vous avez l'inquisiteur qui leur demande. Et qu'est-ce qu'on voit sur vos armureries ? Ben, deux hommes sur le même cheval, pourquoi ? Et l'inquisiteur qui redemande, vous pratiquez la sodomie ? C'est quoi ça ? Quand un frère veut paillarder avec un autre, l'autre doit l'accueillir avec gentillesse, c'est dans nos statuts. Et votre rite préféré ? Eh bien, le rite préféré, c'était le baiser sur l'anus, et alors ?
Sur quoi, attends ?
Le baiser sur l'anus. Uh-huh. Oui. Très précisément, il y a des textes qui disent que 132 Templiers ont avoué ça à l'inquisiteur. Bon, d'accord, ils étaient sous pression, mais enfin, ils ont quand même 132 à sortir le baiser sur l'anus comme rite fondateur de l'ordre des Templiers. Ça nous fait rire, mais ça fait un bilan de 54 brûlés vifs à Paris et beaucoup d'autres en Provence et des centaines d'emprisonnés. C'était la triste fin de l'amour chevaleresque. Mauvais plan pour les femmes aussi. Jusque-là, elles étaient invisibles, elles comptaient pas, ou alors seulement comme des petits cadeaux qui entretiennent l'amitié entre hommes. Maintenant, l'amour courtois les célèbre, les courtise, l'Église en fait des madones. Elles étaient objets d'échange, elles sont transformées en objets d'amour, en objets symboliques. Et c'est pas forcément mieux. Les époux, les pères, les curés contrôlent leur comportement pour qu'ils soient conformes à la nouvelle norme. Et la barre est haute. Elles sont assignées à résidence symbolique. Et tout ce qui dépasse, toutes les pratiques d'autonomie invisibles jusqu'ici sont déclarées diaboliques et réprimées. Et c'est l'heure des bûchers, aussi pour les femmes. Voilà, c'est tout. C'était la véritable histoire vraie de l'amour toujours. Il y a beaucoup d'autres choses passionnantes dans ce livre de Louis-Georges Thin, qui s'appelle, je le rappelle, « L'invention de la culture hétérosexuelle ». On vous a raconté que le tout début, alors allez voir la suite. Voilà, c'est tout. Voilà. Des questions ?
Non, on a un peu... Non, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'histoire du filtre, là. Parce qu'en fait, ça veut dire beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'on juge naturel ou pas naturel. Et l'histoire, à un moment donné, de considérer qu'il faille un filtre pour l'amour entre un homme et une femme, mais qu'un siècle après, ce filtre disparaît et tout à coup. Waouh, c'est trop fort, ça arrive comme ça. Je trouve ça génial.
Voilà. Voilà, puis la morale de l'histoire, c'est que tout ce qui a été construit peut être déconstruit, détruit, et vice-versa, et qu'on est absolument obligé à rien.
Alors, on va continuer sur le thème de l'amour, et puis on va voir maintenant où ça en est, là, l'idée de l'amour actuellement. Alors, on va voir ça en chanson. Donc, on propose un petit best-of des plus belles phrases des chansons d'amour. C'était très, très dur de choisir, parce que... Vraiment, il y en a beaucoup.
Aujourd'hui, j'ai rencontré l'âme de ma vie. Oh. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime. Pour ça, elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi.
C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle.
Pour l'amour du...
ciel bleu. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais.
Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. C'est comme si tu étais ma mère, en même temps que ma gamine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine.
Je peux tout te pardonner et faire semblant d'oublier. Je veux bien fermer les yeux et faire tout ce que tu veux. Je veux bien te partager et ne veux te supplier. Mais reste encore. Faisons l'amour.
Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Un instant sans toi et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte.
D'entendre un petit montage sur les plus belles phrases des chansons d'amour et c'était un peu c'était un petit résumé quoi de la culture de l'amour actuelle. Alors on retrouve toutes les phases, le coup de foudre, la prédestination, le mythe du prince charmant, le fait que l'amour ça soit vraiment central dans la vie, forcément que l'éloge de la dépendance affective en fait. Et on voit que ces chansons-là, il y en a des tonnes et des tonnes, et que ça fait vendre des tonnes et des tonnes, et que c'est donc que c'est pas pour rien qu'elles existent, quoi.
Mythe de l'amour, cette chose recommencer,
on t'entend pas.
On est tous en train de chercher et tout, et qui décortique un petit peu et qui voit le truc comme l'amour d'une manière capitaliste en fait. Que l'amour c'est plus grand que tout, là 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 là, mais qui. Voilà, moi j'ai pas très bien préparé mon truc, ça va sûrement se sentir. Mais voilà, je vais quand même essayer de vous raconter ce que raconte un peu cette brochure. Et donc sur ce truc du vocabulaire, il faut peut-être commencer par des questions. Voilà. Alors, quand des êtres éprouvent de l'affection, ils peuvent se transmettre différentes choses. Ils peuvent avoir des échanges affectifs. Alors, ce que la personne qui a écrit la brochure appelle échange affectif, c'est par exemple des baisers sur la joue, des baisers sur les lèvres, des bras dessus-dessous, des touchers de cheveux, des sommeils côte à côte, des léchouilles, des cunis, des fellations, des attouchements génitaux, etc. Et on peut appeler ça des échanges physiques. Et il est habituel de les diviser plus ou moins en deux groupes, ceux qui procurent un plaisir sexuel, qu'on appellera donc échange sexuel, et ceux qui procurent d'autres plaisirs, qu'on appellera gestes de tendresse. En plus de ces échanges affectifs corporels, il y a d'autres échanges affectifs qui passent par d'autres trucs, comme des regards, des discussions interminables, des louanges, des marques d'attention, des moments passés ensemble, des mots doux, des tranches de rigolade, des sourires complices. Et ça, ce sont des échanges affectifs qui sont plutôt comportementaux, qui sont des attitudes, des dialogues. Donc, quand on participe à ces échanges affectifs-là et que tout se passe bien, on en retire des choses, ce qu'on appelle des biens affectifs, des sensations agréables, de douceur, de plaisir, de tendresse, des sentiments de valorisation, des sentiments de complicité, des impressions d'exister, de compter. Donc ces échanges affectifs entre personnes, ça peut prendre toute une série de formes, une série très longue et diverses formes. Et quand ces échanges affectifs nous font du bien, nous en retirons des biens affectifs. Donc on part sur ce truc de bien affectif. J'espère que vous avez compris ce que j'appelais bien affectif.
Ouais, ouais.
Donc toutes les cultures qui émaillent l'humanité, elles ont chacune leur manière de gérer tous ces échanges affectifs-là. Il y en a qui sont interdits, d'autres qui sont tolérés, catégorisés, tabous, normés, etc. Et par exemple, dans notre culture à nous, on a principalement deux mots pour ces échanges-là, c'est l'amitié ou l'amour. Donc en gros, on n'a pas beaucoup le choix. Donc voilà. Et nous, aujourd'hui, on va parler de l'amour et l'économie de l'amour grâce à ces biens affectifs. Donc cet amour, il fait naître toute une économie, et une économie veut dire misère et une demande. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut. Je vais continuer, je suis à l'arrache. Merci. Bon, vous êtes toujours sur Radio Galère. Attends, j'étais le comble des cagoles.
Moi je crois que tu as oublié un truc sur l'amour oui. Avant de passer à la misère.
Oui, j'y arrive après. Mais vas-y.
Non, parce que le truc, c'est le fait qu'on est constitué mentalement cet objet amour qui est un tout absolument immense où il y a à la fois le couple, la durée et tous les échanges affectifs en même temps doivent être cumulés dans une histoire d'amour avec une personne.
C'est ça, on idéalise l'amour et l'amour, c'est ce tout-là en fait, contrairement à l'amitié où on peut faire différents trucs. Et du coup, tous ces échanges-là affectifs, ils doivent se concentrer dans le grand amour. Et ça devient donc une forme de relation extrême, rêvée et qu'on désire à outrance. Et quand on ne l'a pas, ben, on veut absolument l'avoir. Quand on l'a, on a une peur absolue de la perdre. Et quand on ne l'a plus, on meurt, hein, comme ils le disent si bien dans leur chanson. En même temps, la définition de l'amour est si pointue, si exigeante, ben, qu'on en chie à le rencontrer. Il faut bien, il faut avoir tous ses biens affectifs à la fois ou n'en avoir aucun. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, pas d'amour, pas de tendresse sans couple, pas de couple sans prince charmant, pas d'intimité sans pacte éternel. Donc toutes ces conditions font de nous des êtres tellement exigeants que les possibilités de vivre des échanges affectifs deviennent rares, ce que je disais. Et ça crée du coup, là commence la misère affective. Et cette culture de l'amour, elle encourage la demande de ses biens, en même temps qu'elle réduit la quantité disponible. Donc là où il y a une économie, le capitalisme, hein, il se précipite, quoi, c'est clair. Donc en plus, la rareté du bien inspire à toute la peur d'en manquer, la compétition et la propriété pour ne pas laisser filer. Par exemple, la compétition affective qu'on connaît tous et toutes, c'est concerne la capture du prince charmant. Donc d'un coup, on va voir quelqu'un faire « Ah, notre petit cœur va palpiter, on va sentir une chaleur et se dire « Mon Dieu, c'est l'homme ou la femme de ma vie ». Et puis on va se retourner et puis voir qu'en fait, ben, le truc qu'on pensait si personnel et tout, ben non, c'est pas si personnel. Il y a à peu près 10 personnes qui regardent la même personne avec le cœur qui fait plip plip.
Donc, ah ouais, je sais qui c'est, je l'ai vu le mec.
Ça commence par un R, non ?
Et donc voilà, dans ces cas-là, on s'aperçoit que ben ouais, ce qu'on peut sentir super profondément, en fait, mine de rien, c'est construit, quoi. Que le beau gosse ou la belle gosse de la classe, il soit là, ou le prince charmant, ou je sais pas, Johnny Depp, par exemple. Donc après la compétitivité, il y a la propriété affective. En fait, la peur d'être en misère affective, si on trouve un jour quelqu'un qui nous plaît, dont on tombe amoureux, et ben cette peur va créer des sentiments de merde qui nous bouffent la vie, qui s'appellent la possessivité, la jalousie ou la dépendance, et qui va faire que ben voilà, ce prince ou cette princesse charmante ou ce qu'on a trouvé, quoi, et ben c'est des oiseaux rares, donc on va les mettre en cage et en fait on va se bouffer la vie avec ça. Et enfin, cette rareté des biens affectifs creuse des fossés entre les gens qui ont et les gens qui n'ont pas, vu le capitalisme. Donc il y a les exclus de l'affection, et ils sont pleins. Donc on peut être exclu par notre physique, par le manque d'expérience, le manque d'aisance, le manque de confiance en soi face à un enjeu qui est énorme, quoi. C'est cet accès à l'amour. Donc on peut dire qu'il manque de capital affectif. Et comme dans tout système de domination, moins on a de capital, moins on a de chances d'en gagner. C'est un cercle vicieux. Les exclus de l'affection manquent d'assurance au départ, donc ils vivent peu d'expérience affective et n'ont jamais l'occasion de gagner de l'assurance, donc restent handicapés à moins d'une rencontre de type miraculeux. Et paradoxalement, du coup, de vivre dans...
Eh oui. Ouais, tu rigoles parce que c'est pas toi.
Donc, mais oui, mais c'est ce qui crée aussi ces trucs de dépression, d'internement, de pétage de plomb. Et moins, en fait, tu connais un truc et moins t'as accès à quelque chose que tu... Enfin voilà, à la limite, quand tu commences à avoir des relations avec des gens, tu t'aperçois que ben, l'amour avec un grand A, la personne parfaite, ça n'existe pas. Mais moins t'en as, plus tu fantasmes et du coup, c'est tendu, quoi. Donc, et puis surtout, c'est tendu parce que ça existe à cause d'une putain de construction sociale qui est née de la culture de l'amour. Et là, bien sûr, hein, le capitalisme nous rattrape toujours parce que là où il y a rareté, il y a une demande et un nouveau marché. Et le capitalisme débarque bon, en laissant bien ce truc de « il faut rêver à l'amour parfait ». Mais si vous ne l'avez pas, bon, vous pouvez avoir des petits succès d'années, de la pornographie, de la prostitution, des psychothérapies,
des nouveaux cachets,
des poupées gonflables. Ou alors, bon, si vous voulez vraiment l'avoir, il faut quand même ressembler au prince charmant, quoi, et à la princesse charmante. Du coup, pour ressembler à une princesse charmante, il faut du maquillage, il faut perdre les kilos là où il y en a, il faut acheter des soutiens-gorge qui montent les seins, et
des coaching, quoi.
Voilà, donc ça c'était la partie un petit peu constat de dans quel monde on vit. Ça fait pas
raison. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça que tu vas nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Non, ça, on va le dire ensemble. Non, en vrai, dans cette brochure, du coup, il y a plusieurs propositions face à ce constat d'essayer de changer les trucs. Et moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est de se dire, ben, les biens affectifs, ils sont disponibles en vie. Mon micro vient de tomber. Hein. Nous sommes dans une radio associative. Donc voilà, la personne nous dit, bon, il faut la gratuité des biens affectifs pour une affection abondante, égalitaire et sans domination, ce que je suis bien d'accord, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, n'empêche que c'est intéressant de réfléchir à démonter ce truc de l'amour et à essayer de pouvoir donner ou avoir des biens affectifs qui peuvent venir de plein d'endroits, en fait.
Oui, je crois que ce qui compte surtout dans cette histoire-là, c'est que ce qu'il faut démonter, c'est le mythe de la rareté, c'est-à-dire qu'il y aurait un grand amour. J'ai entendu quelqu'un dire que le prince charmant, c'est une version pour adultes du Père Noël. On veut croire qu'il existe, mais même si on sait au fond de nous qu'il n'existe pas, sauf que le prince charmant et le grand amour, ils restent coincés dans la cheminée la plupart du temps. On ne le voit jamais. Et que pendant ce temps-là, on pleure dans la cuisine sur l'épaule des copines, on se désespère. Et surtout, on ne voit pas qu'il y a plein d'amour, d'amitié, de tendresse et de tas de trucs qui peuvent nous faire vivre et qui sont tout autour de nous. On a des amis, on a des tas de gens autour avec qui on peut partager tous ces, ces échanges affectifs dont elle parlait au début. Cette liste impressionnante de comment on peut se faire du bien entre gens qui ne sont pas forcément en couple, et sans que ça soit transgresser la morale, etc. Donc je pense que la seule bonne idée là-dedans, c'est on arrête de se brancher sur un truc unique tellement rare qu'il n'en existe pas, et on se dit que finalement, de l'affection au sens large, qui peut largement nous faire vivre et vivre bien, il y en a partout, et il y en a plein, il y a juste à se baisser pour le ramasser. C'est ça que j'ai compris, moi.
Ouais, moi, c'est vrai que cet concept, bon, parfois, ça peut paraître un peu abstrait de parler de bien affectif ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a parlé, en fait, là-dedans, c'est cette histoire de marché, de dire qu'à un moment donné, on nous dit que c'est le centre de notre vie, que voilà, la quête de notre vie pour qu'on soit réalisé, c'est qu'on ait ce grand amour, qu'on le rencontre, qu'on le garde, qu'on se batte à la limite pour le conserver. Et donc, évidemment, c'est hétéro, donc c'est quelqu'un d'autre, ça doit être monogame, etc. Mais c'est bien, en fait, qu'il y a une histoire de marché là-dedans. Et que donc, on doit aller chercher quelque chose, proposer quelque chose et en retirer quelque chose. Et il faut bien voir que là-dedans, quand on réfléchit un peu, quand on essaye de voir ces histoires d'amour comme un marché, c'est que les femmes là-dedans, ben, elles sont vachement moins avantagées que les mecs, quoi. Parce que les mecs, mine de rien, ils ont vachement de choix sur le marché, comme ça, au départ. Déjà, un mec, par exemple, de 30 ans, bon, ben... il peut trouver des femmes de son âge, bon, il peut trouver des femmes un peu plus âgées, mais il peut aussi trouver des femmes plus jeunes. Enfin, il a beaucoup de choix, même un mec de 50 ans, par exemple. Le mec de 50 ans, il en a marre de sa nana, commence à vieillir, qui est un peu blablabla, et ben, il va se trouver une nana de 20 ans. Du coup, il y a, pour le mec, un accès à un marché des nanas, enfin, une possibilité d'avoir des relations qui est énorme. Alors que les nanas, bah, c'est pas vraiment la même chose. Parce que quand on a 50 ans, et ben, pour réussir à rencontrer quelqu'un d'autre, bah, c'est plus difficile. Il y a vachement moins de choix, en fait. Et donc, elles sont dans la rareté, justement, qui va plus vers les nanas.
Et puis, ce qui est aussi hyper injuste dans ce système-là, c'est que c'est le seul chose dans ce monde-là, capitaliste, etc., et patriarcal, c'est le seul dépassement de soi qui nous est proposé. Et c'est celui qu'il faut qu'on ait, c'est l'amour. Et encore plus aux femmes. En gros, on va pas aller se dépasser dans notre travail. Non. C'est notre truc, c'est de trouver l'amour, de lui faire des enfants, etc. Et en fait, ça bloque plein de trucs, parce qu'on peut faire plein d'autres choses ensemble. Puis c'est aussi un truc de l'amour, c'est du couple. Du coup, ça... Parce que c'est pratique pour l'État d'atomiser les gens et de faire qu'ils restent avec des petits rêves stéréotypés dans des petites vies chiantes, quoi. Parce que si d'un coup les gens s'aperçoivent que, eh ben, en groupe, en faisant quelque chose, tu peux avoir une intensité hyper forte et de l'affection, etc., etc., ben, c'est un truc de renversement, en fait.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes et les moulouches n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus aux têtes creuses, mais la dent conveilleuse va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, 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 toujours le vieux discours. soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse, va te faire voir chez les grecs, les anthropopithèques. L'amour c'est du pipeau.
C'était Brigitte Fontaine, l'amour c'est pas du pipeau.
Ah si, l'amour c'est du pipeau.
T'as pas bien écouté toi. Et la suite c'est quoi? La suite c'est une pièce de Franck Aramé dont on a sorti deux extraits et qui raconte l'histoire des déboires d'un couple dans les années 70. Un couple ouvert qui croyait... grand ouvert à deux battants, qui croyaient à la non-exclusivité et qui ont fait plein de tentatives. Et là, on va avoir le point de vue de la femme. Mon mari, depuis que je lui avais donné ma bénédiction, va, fais l'amour en paix. Vous auriez dû le voir.
C'était l'effet couple ouvert. Je n'étais plus torturé par le complexe de culpabilité. J'étais libre.
Libre. Il ne touchait plus terre. Il volait. Moi, j'étais devenu complètement parano. Et lui, il avait toujours des aventures bouleversantes. Il me racontait.
Pardon, c'était toi qui me disais toujours « raconte, raconte !» Et moi, je te racontais.
Je suis masochiste. À l'époque, il avait une liaison presque stable, à demi-sérieuse, avec une fille d'environ 27 ans. Pas belle, mais très intelligente, dépourvue de préjugés. Pour aller vite, une intellectuelle de gauche, une 68arde, vous voyez le genre.
Pourquoi dis-tu ça sur un ton méprisant?
Moi, mépriser l'intellectuel? J'étais très honorée. Je me culturisais. Elle aimait tellement ma cuisine. Elle mangeait ce qu'elle mangeait. Parce que pour manger, les intellectuels sont plus forts que tous les autres.
Tu es méchante.
Oui, je suis méchante. J'ai tellement de cornes que je ne peux plus tenir ma tête droite. Laisse-moi au moins être méchante. Elle l'aimait, d'un amour non possessif, contrairement à moi. D'ailleurs, elle avait déjà une liaison avec un autre homme, qui vivait un autre amour avec une autre femme, laquelle était mariée avec un autre encore, qui avait la table ronde des couples ouverts. Quelle fatigue! Mon mari, de son côté, avait une histoire avec une petite jeune fille très mignonne. Une terrible gourmande. Elle mangeait toujours des glaces, même en hiver. Elle allait à l'école, et lui, il l'aidait à faire ses devoirs.
C'était un jeu, oui. Je jouais vraiment avec cette petite.
Oui, à cache-cache, sous les draps. Coucou, me voilà, il me racontait.
Tu sais pourquoi elle me plaît? Parce qu'elle est folle, imprévisible. Elle fait des caprices, rit, pleure, vomit des glaces entières. Grâce à elle, je me sens comme un gosse et en même temps un père.
Un père-fils, quoi.
Oh, c'est facile.
Fais attention qu'elle ne tombe pas enceinte. Je lui disais. Et lui, mais bien sûr, moi je fais attention, mais quand elle couche avec d'autres garçons, je ne peux pas être derrière eux à contrôler, elle ne veut pas. Ose dire que c'est pas vrai.
C'est vrai, mais la dernière phrase était une plaisanterie, évidemment.
Un jour, mon mari vient me trouver très gêné et me dit...
Écoute, c'est des histoires de femmes. Tu ne pourrais pas accompagner Pierre?
Pierre, c'était la gamine des glaces.
Chez le gynécologue pour qu'il lui pose un stérilet, toi, tu arriverais peut-être à la convaincre, et même sûrement.
Bien sûr, je servirai de mère à Pierrette. Je l'accompagne chez le gynécologue. Et je lui dis, cher docteur, posez un stérilet à la fiancée de mon mari. Espérons qu'il sera aussi spirituel que nous. Je te le mettrai à toi, le stérilet, dans le prépuce. Comme ça, tu feras pipi en girandole.
C'est qu'il y a des biais avec toi, c'est que tu arrives à tout démolir, y compris les moments de l'été et d'émotions sincères. J'essaie de me confier, de parler.
Parle, explique-toi. Quel foutourage t'a pris de passer comme ça d'une femme à l'autre? Tu vas attraper le sida. Et lâche le pistolet, je te jure que je ne me tuerai pas.
Parole d'honneur?
Mais oui, parole d'honneur, je n'ai plus envie, j'ai changé d'idée. C'est sur toi que je vais tirer.
Ah non, pas de blagues.
Je ne plaisante pas le moins du monde.
Mais tu deviens folle, tu fais partir un coup, j'ai fallu le recevoir. La fiction, ce n'est donc jamais pour moi.
Silence,
haut les mains et le nez au mur. Ne bouge plus. Je vais leur parler aux auditeurs et je te tuerai dans 2 minutes. Un beau jour, mon mari a contre-attaqué.
Est-ce que tu as fait, toi, pour éviter que tout tourne et nos déboudins? Quand j'ai réagi, que j'ai cherché des émotions en dehors de la famille, des stimulations, des passions, des aventures différentes. Tu n'as rien fait pour me comprendre.
Mais mon amour, pourquoi ne pas me dire tout de suite que tu avais besoin d'émotions? Pourquoi les chercher en dehors de la famille? Je vais t'en donner, moi, dans le cercle familial des émotions. Je te tire dessus. Et je sais bien où. Je sais donc qu'un jour, mon mari est passé à la contre-attaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il faut que nous parlions davantage, toi et moi. Notre couple ne peut être sauvé que si nous changeons d'attitude culturelle. Il a sorti l'hypocrisie des conventions bourgeoises, le moralisme infect.
C'est vrai, la fidélité est une règle infâme, barbare. La notion de couple fermé, de famille, est liée à la défense des normes, intérêts économiques, au patriarcat. Tu ne veux donc pas comprendre que je peux être très bien, avoir une liaison et préserver en même temps un rapport d'amitié avec toi. Avoir de l'amour pour toi, de la tendresse et surtout du respect.
Tu as trouvé ça tout seul ou dans une émission d'Alberoni? Tu as enfilé 28 banalités en 3 secondes. Amitié, respect, gardez-les pour ta grand-mère ces beaux sentiments. Moi, je veux être aimée, bousculée, renversée sur le lit. Je veux me lever le matin avec des cernes jusque-là. Amitié, respect, estime, basta! Finissons-en avec cette histoire de couple ouvert. Je n'y tiens plus. Je ne me vois pas avec un mari et sa fiancée à la maison. Avec mon caractère, ça ne marchera jamais. Moi, je suis possessive. Je suis cancer, mon amour. Je suis cancer. Ascendant, connasse. Je vois d'ici la scène. On sonne à la porte et je vais ouvrir. Qui est là? Ah, mon mari et cette charmante. Qui est-ce? Permets que je fasse les présentations. Ma femme, ma fiancée. Comme tu es mignonne. Et en quelle classe es-tu, trésor? Asseyez-vous, le dîner est prêt. Là, c'est votre chambre à coucher, qui sera aussi la nôtre, mais sois tranquille. Moi, je n'y serai pas. Je dormirai sur le petit divan avec un genou dans la bouche. Gémissez, hurlez. Ne vous souciez pas de moi, j'aurai des boules caisses dans les oreilles. C'est ça que tu exiges de moi? Le coupe au vert, c'est bidon. Trop de gens s'y sont cassés le nez.
Et puis après, c'est justement quand les autres échouent, quand ils se cassent le nez, que nous devons nous y mettre. L'aurait inventé pour nous.
Le couple vert? Je vais te tuer, fou le con. Pourtant, à la fin, il m'a convaincue. Pour sauver notre mariage, notre amitié, notre vie privée, il fallait rendre public notre lit. Il y avait le problème des enfants. Les enfants comprendront, disait-il. Le plus étonnant, c'est que mon fils, Roberto, 24 ans, m'a justement donné le courage d'essayer. Maman, vous ne pouvez pas continuer comme ça, papa et toi. Un de ces jours, vous allez vous égorger. Toi, maman, tu ne peux pas continuer à être une apprentice de papa. Tu dois conquérir ton autonomie, te construire une vie. Papa prend des maîtresses. Et toi, pas du tout pour te venger, mais parce que c'est juste, c'est humain. Tu dois te trouver un amant. Maman, tu ne vas pas continuer à jouer la Sainte Thérèse du foyer. Tu trouves un autre homme, sympathique, peut-être même plus jeune que papa, si possible un camarade, socialiste. Comme ça, notre fortune serait faite pour l'éternité. Essaye en tout cas, maman, je vais t'aider, maman. Et moi, à l'appel de ce maman, je n'ai pas pu résister. J'ai essayé. Première règle, donc, déménager. Après des années d'humiliation, de désespoir, j'ai quitté cette vallée des larmes. J'ai trouvé un autre appartement, celui-ci. J'ai attrapé tous les vêtements datant de ma vie matrimoniale et j'ai tout flanqué en l'air. J'ai couru me refaire une garde-robe. Je me suis faite une coiffure à la punk avec des cheveux tout debout. Un maquillage intermittent violet. J'étais horrible. Et la démarche aussi, oui, parce que vous le savez bien, comment on devient quand il ne nous aime plus. Ennuyeuse, triste, pleurnicharde et même un peu bossue. Moi, j'avais complètement oublié que j'avais des hanches. Car j'en avais.
abandonnée, mais avec des hanches. Je marchais sans le moindre déhanchement. Tout d'un seul bloc, par chutes successives. Raide comme de la morue séchée. Comme ça. Toc, toc, toc. Un grand chameau arthritique. Les yeux toujours fixés à terre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans l'espoir de trouver les 100 balles qui me porteraient de la chance. Mais non. Rien que des crottes des chiens. C'était une période noire. Mon fils me surveillait toujours et vérifiait si j'avais changé. Il était très satisfait. « Bravo, maman, tu es sur le bon chemin. Tu as changé des vêtements, de coiffure. Mais tu es grosse, maman. Tu dois maigrir, maman. Tu dois devenir appétissante. » Il me mettait à pain et à l'eau. Il me faisait jeûner, affamé. Ensuite, courir, footing. Dieu maudisse à jamais celui qui inventait le footing. Je courais comme une folle, le matin, l'après-midi, dans les parcs, avec une faim du diable. J'ai fini par maigrir. Mon fils vient me voir. J'attendais, plein d'espoir, un compliment. « Retourne-toi, maman. » Je me retourne et lui... « Maman, tu as les fesses en gouttes d'huile. » Et elle ne remonte pas. « Mon fils, qu'est-ce que je dois faire pour mes fessiers ?» Et lui, marche sur les pointes. Toute la journée comme ça. Titic, titic, titic. Ensuite, raffermir les cuisses. Bref, j'ai maigri, je me suis raffermie, mais je ne trouvais personne quand même. Je ne sais pas pourquoi, je ne plaisais pas, personne ne me voyait. J'étais devenue transparente. Personne, je ne trouvais personne. Mon fils me disait, « Maman, c'est normal que tu ne trouves pas, tu es toute tendue à l'intérieur. Tu dois te détendre, t'assouplir, tu dois devenir disponible, t'offrir, maman. Quand tu vas dîner dehors, entre amis, tu dois chercher à capter un regard. » Je passais des dîners entiers comme ça. Je ne retrouvais pas davantage. Encore pire, celui que je fixais avec intensité prenait peur. « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu deviens folle? » Non, 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 c'est rien. Je voulais mourir. C'était vraiment une période noire.
Tu as 10 ans, tu rêves d'être belle. Tu rêves d'être belle, oui, belle au bois dormant. Tu rêves de demoiselle, t'attends le prince charmant. Tu rêves de demoiselle, t'attends le prince charmant. Ne rêve pas la belle et ne perds pas ton temps. Combien des demoiselles, y a pas de prince charmant. Combien des demoiselles, y a pas de prince charmant. Lorsque tu as 20 ans, tu rêves d'être belle, tu rêves d'être belle et d'avoir des amants. T'es pas un top modèle, mais tu voudrais pourtant qu'on t'aime demoiselle, qu'on t'aime simplement. Ne rêve pas ma belle, ne perds pas ton temps. Y'a pas que les top modèles qui ont des amants. Y'a pas que les top modèles qui auront des amants. Lorsque tu as 30 ans, tu rêves d'être une bonne mère. Tu rêves d'être une bonne mère car t'as fait des enfants. Tu voulais bien en faire, t'en voulais pas autant. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ils sont là maintenant. Ne rêve pas ma chère et ne perds pas ton temps. T'es pas seulement une mère, y'a pas que les enfants. T'es pas seulement une mère, y'a pas que les enfants. Lorsqu'arrive 40 ans, tu songes à ta carrière. Tu songes à ta carrière car tes enfants sont grands. Tu bosses dans les affaires, tu cours après le temps. Tu bosses dans les affaires, tu gagnes beaucoup d'argent. Ne rêve pas ma chère et ne perds pas ton temps. Y'a pas que les affaires et y'a pas que l'argent. Y'a pas que les affaires et y'a pas que l'argent. Un jour t'as 50 ans, t'en as plus rien à faire. T'en as plus rien à faire de ce que pensent les gens. Tu ne vis pas pour leur plaire, mais pour toi simplement. Tu ne vis pas pour leur plaire, mais pour toi simplement. Ne rêve pas ma belle et ne perds pas ton temps. Vis donc pour toi ma belle et prends donc du bon temps. Vis donc pour toi ma belle et prends donc du bon temps. Quel que soit le moment, nous devrions, ma chère, et beaucoup plus souvent, vivre à notre manière, sans nous soucier des gens, vivre à notre manière beaucoup plus tôt qu'avant. Ne rêve pas ma belle, et ne perds pas ton temps. Écoute Marie, tourne, allez prendre du bon temps, et prendre du bon temps beaucoup plus tôt qu'avant.
Lorsque je considère que le personnel est politique, je dis d'une part
que ce personnel est susceptible de changement, puisque non déterminé par le biologique,
et d'autre part que le comportement affectif et sexuel est bien un comportement social.
Autrement dit, le personnel fait partie de l'ordre politique que je souhaite changer.
Personnel et politique n'est pas pour moi seulement dire que le politique influence le personnel,
mais bien plutôt que les choix et pratiques dans notre vie privée ont des significations.
Ont des significations politiques.
Autrement dit, le personnel fait partie de l'ordre politique que je souhaite changer.
Autrement dit, le personnel fait partie de l'ordre politique que je souhaite changer.
Ça, c'est Corinne Monnet, en fait, qui souhaite changer tout l'ordre politique dans la rue, dans les lits, dans les cuisines, un peu partout. Et donc, elle reprend, en fait, le sujet amené par Franck Caramé, qui, elle, critique un peu cette espèce d'illusion, soi-disant, enfin, voilà, l'illusion des années 70 du couple ouvert, où finalement c'était les nanas qui se faisaient avoir au final, parce que génial, leur mec était libre et leur mec se retrouvait avec 15 nanas qui débarquaient chez la femme qui, elle, faisait à manger pour tout le monde. Super libération.
Salut, il y a des travaux à côté.
C'est en direct de chez les voisins qu'on vous fait l'émission ce soir. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit coup de perceuse.
Oh.
Coup de perceuse deuxième. Quelqu'un souhaite communiquer avec nous?
Bon, on va pas cesser démonter.
Donc en fait, Corinne Monnet, elle y croit à cette histoire de non-monogamie, et elle parle de non-monogamie responsable. Voilà, et elle repose plein de questions sur comment vivre son hétérosexualité. Ses relations personnelles, affectives, sexuelles avec les gens. Et donc elle pose la question de l'autonomie de la personne, des femmes en particulier, parce que c'est son expérience personnel, quoi.
Ouais, c'est ça, quand elle parle de non-monogamie responsable, c'est en parallèle à la non-monogamie irresponsable qui serait ce qu'on a évoqué avant, le couple libre, où souvent on se retrouve dans des situations quand même inégalitaires, où souvent c'est la femme qui se fait avoir, mais surtout c'est une relation qui ne remet pas du tout en cause la notion de couple et la notion de dépendance. Voilà, c'est un couple qui se fixe quand même des limites, mais qui reste la base centrale de l'amour, quoi. Voilà, ça reste une histoire à deux. Voilà, donc comme on l'a bien vu depuis le début de l'émission, l'amour, c'est un construit social qui organise l'oppression des femmes. Et surtout, ce qui est unique dans l'histoire, c'est que c'est un rapport de domination où le dominé, il doit aimer le dominant, quoi. Donc, voilà, et que la société, elle encourage que ce modèle de l'amour exclusif, avec la fidélité comme valeur suprême, la jalousie comme une preuve ou une garantie. Et voilà, on comprend bien que derrière l'exclusivité se cache l'idée que l'autre, il doit tout apporter à la deuxième personne, quoi. Voilà. Et je voulais faire une parenthèse quand même, il y a dans son texte d'ailleurs qui s'appelle à propos d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité. Voilà, c'est un texte que vous pourrez retrouver dans un ouvrage collectif qui s'appelle Au-delà du personnel. Et donc elle cite des études qui ont été menées en psychologie qui montrent que le mariage est néfaste pour les femmes sur le plan de leur santé mentale en particulier. Et que si le mariage provoque des effets dépressifs ou des risques accrus, en tout cas de désordre psychologique chez les femmes, il offre en revanche une protection aux hommes. Et que dans tous les groupes qui ont été étudiés, alors il y avait des célibataires, des mariés, des veuves, des divorcés, des deux sexes, eh bien les femmes mariées présentent la plus haute incidence de maladies mentales. Et c'est parmi les célibataires en fait, ce sont les hommes qui présentent un risque supérieur de maladie mentale. Voilà, donc je referme la parenthèse. Je trouvais ça quand même assez révélateur du non-épanouissement qui peut découler de la monogamie, de cette vie en couple exclusif, quoi.
Oui, et puis c'est en contradiction bien clair avec les espèces d'idéaux qu'on a de la femme qui dépend forcément, qui va forcément dépendre d'un environnement affectif, et alors que là, ça, le fait de le poser en termes de désordre psychiatrique, donc on imagine, on pense en premier aux dépressions évidemment, on a quand même tous tendance à, même si on essaye de déconstruire ces trucs-là de couple et de vie à deux exclusive, on a quand même cette idée que à deux, c'est plus facile que tout seul. Et en fait, ce genre d'études, elles cassent bien ces jolies petites images d'Épinal.
Moi, ça me rappelle trop qui n'en trouvent pas depuis 20 ans, qui sont seuls, qui vivent seuls leurs gamins et qui galèrent. C'est vrai.
Alors, on n'a pas entendu le début de tes paroles.
D'accord. Alors, je disais que justement sur cette question de maladie mentale, moi j'avais une anecdote sur ma vie à moi, où j'ai mis vachement longtemps à comprendre qu'il y avait un enjeu, quoi. Parce que donc, pour répéter, mon père, en fait, arrêtait pas de critiquer les copines de ma mère, qui étaient toutes des mères célibataires, qui galéraient dans leur vie parce qu'elles trouvaient pas de mec. Bon, elles en chiaient pour plein de raisons. Et mon père me disait tout le temps, tu vois, comme c'est dur pour les femmes qui n'ont pas de mari maintenant, vraiment, c'est trop dur pour elles, etc. Et moi, j'étais là, oui, c'est vrai, etc. Bon. Et puis, des années ont passé et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, moi, je suis partie, je suis revenue. Il continue à me sortir la même chose. Toujours, ah ouais, c'est trop dur pour elles, etc. Sauf que ma mère, depuis ce temps-là, eh ben, y a eu au moins 4 fois où elle a pété les plombs, où elle a commencé à prendre des pilules. Justement, là, la dernière fois dont il m'en parlait, ma mère, elle prenait des pilules calmantes, elle était un peu à l'ouest, elle venait de sortir de l'hôpital, enfin, elle n'était pas bien, quoi. Et ses copines, elles n'ont jamais pris de pilules. Et j'ai dit à mon père un jour, mais attends, ce que tu me racontes depuis 10 ans, que je crois tellement que c'est dur pour elle, mais attends, ma mère aussi, elle galère, quoi.
Ouais. Voilà. Moi, j'ai une petite histoire, genre, dans le genre, toujours grand-mère. Genre, il y a ma grand-mère, par exemple, qui est restée veuve très très tôt. dans sa vie. Genre, elle avait 35 ans, 40 ans, comme ça. Et quand je me suis quittée, bon, la première fois avec quelqu'un comme ça, elle a fait une tragédie comme ça. Elle disait, non, mais tu dois penser, non, à ton futur et tout ça, ta. Après, j'ai dit, mais...
Bien sûr.
Oui, j'ai pu penser aussi à mon futur et tout, mais voilà, toi es restée veuve très très jeune, quoi, en fait. Donc du coup, tu as vécu toujours seule. Toi, tu n'es pas restée genre jusqu'à 80 ans avec quelqu'un. Tu es restée seule tête et tôt. Mais dans son imaginaire, il y avait toujours cette question de solitude, non, de comment vivre avec la solitude, c'est toi plus âgé, tout ça. Et voilà.
Pour elle, c'était, il y avait tout qui s'arrêtait avec ce couple-là, en fait.
Oui, pour elle, c'est tout arrêté avec ça. Ouais. Et dans son image, voilà, elle était restée toujours avec quelqu'un. Et voilà, il ne fait pas vraiment le lien entre son idéal et après la vie qu'elle a vécue. Tu as toujours une solitude, comme si elle s'était séparée ou quelque chose comme ça. Elle voit comme abominable le fait de se séparer avec quelqu'un. Mais en même temps, elle était séparée pour la morte. Mais voilà, enfin... Ouais,
sinon pour en revenir au texte de Corinne Monel, bon, faut préciser que c'est un témoignage d'une expérience personnelle. Son expérience, elle est intéressante dans le sens où elle peut offrir des perspectives, enfin en tout cas une alternative donc à ce couple monogame exclusif. Et bon, alors déjà, l'objectif de sa démarche, c'est l'autonomie, c'est-à-dire ce qu'on entend par autonomie, c'est la liberté de se déterminer soi-même, de vivre sa propre vie, de se fixer ses propres buts, enfin là, en l'occurrence, en matière de relations affectives, hein, ce qui n'est pas la moindre des tâches quand on est une femme.
Le terme d'autonomie, il faut le redéfinir parce qu'il était défini par des mecs, en fait, et que dans la bouche et l'esprit des hommes, l'autonomie, ça repose sur la négation et ou la domination de l'autre. Et du coup, elle, en tant que féministe anarchiste, elle n'avait pas du tout envie que son autonomie repose sur la souffrance, la domination de quelqu'un d'autre, quoi. Du coup, elle l'appelle vraiment ça comme... voilà, elle le décrit comme le pouvoir de se définir soi-même. Et donc, par opposition au fait que les femmes ont toujours été définies par rapport à leur relation à autrui. Donc, on est la fille d'eux, la femme d'eux, la sœur d'eux. Et avec en tête que... les femmes sont forcément plus définissables par leur environnement et les relations affectives qu'elles ont, parce qu'elles sont de nature évidemment plus sensibles, de nature plus sociables. Et du coup, c'est ce genre d'idée-là, et le fait d'intégrer vraiment qu'on peut se définir soi-même en, juste en tant que soi-même, quoi, et décider qui on veut être et pas pour qui. Et elle cite, moi j'aime bien la petite citation qu'elle fait de Suzanne Sturdivant, donc qui est une psychologue féministe, et qui dit une petite phrase très simple. Elle dit « Il est nécessaire d'apprendre à s'accorder à soi-même la tendresse que les femmes ont traditionnellement nourrie pour les autres ». Et ça, je trouve ça hyper simple et hyper vrai et à s'approprier pour toutes, quoi. Et après, bon, Monet, elle dit que le fait de s'accorder de l'importance, évidemment, ça va être pris pour un égoïsme fini, une arrogance incroyable, dès que c'est exprimé par une gonzesse, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est concerné par ça. Le fait de dire, non, mais en fait, ouais, je fais vachement attention aux autres, quoi. Et enfin, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se reconnaître là-dedans. Et aussi, par rapport à cette histoire d'autonomie, elle insiste bien sur le fait qu'il y a une démarche, enfin, un combat autant individuel que collectif, en fait, pour y accéder et pour sortir un petit peu de ce qu'elle appelle l'appropriation matérielle et mentale des femmes. Pour employer les gros mots.
Ouais, et du coup, elle, enfin, donc la voie qu'elle essaie, enfin qu'elle explore, pour essayer de trouver une façon d'aimer qui lui corresponde mieux que ce qui est proposé par la société, c'est un peu le modèle de l'amitié. Alors en effet, la relation amicale, c'est souvent une relation égalitaire, qui nécessite l'estime de l'autre, le respect de sa liberté, la confiance, la réciprocité, la bienveillance, enfin voilà, des éléments comme ça qui sont quand même essentiels à l'amitié. Et qu'on retrouve, enfin en tout cas, c'est des valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'amour. L'amour, il peut être inégalitaire, il peut faire souffrir. Le principal, c'est de s'aimer. Voilà, c'est quand même une relation qui est vachement moins exigeante que la relation amicale. Donc elle a essayé de se baser sur cette relation amicale pour vivre ses relations affectives. Elle dit en tout cas n'avoir jamais trouvé dans l'amour toute la force et l'énergie qu'elle trouve dans l'amitié sexuelle. Elle y trouve la force de faire autre chose, de s'affirmer et de se réaliser ailleurs que dans ses relations affectives, quoi. Et effectivement, si on considère là les valeurs qu'on vient d'évoquer, l'amour tient pas la comparaison avec l'amitié, quoi. L'amitié, c'est quand même une relation où si à un moment il y a quelque chose, qui va pas, c'est une relation qui peut être mise en cause. Pour l'amour, c'est quelque chose de souvent beaucoup plus difficile parce qu'il y a d'autres enjeux, parfois financiers, parfois des enfants au milieu. Enfin, voilà, c'est souvent beaucoup plus difficile de remettre en cause une relation amoureuse, surtout quand elle est exclusive, qu'une relation amicale. Donc elle a voulu se baser là-dessus, quoi.
C'est ça, c'est qu'il y a vachement moins de marge de discussion possible avec l'amour. Enfin oui, quand elle fait vraiment, fait presque un tableau entre l'exigence de l'amitié et la non-exigence de l'amour. Et ça fait du bien en fait de lire ce genre de comparaison. C'est assez chouette. Et puis après, ce qu'elle dit aussi, c'est que c'est dur, quoi, le chemin qu'elle a parcouru, parce que. Elle disait qu'elle n'avait aucun ouvrage, entre guillemets, de référence de Nana qui avait essayé d'explorer d'autres pistes en termes d'affectif, de sexuel. Je m'approche du micro, c'est un ordre. Et du coup, elle s'est retrouvée super seule et elle avait plein de choses. Elle s'est retrouvée à devoir déconstruire toute seule ce qu'elle connaissait, ce qu'elle avait vécu, et avec plein de doutes. Et donc ça, elle le dit clairement dans son texte. Mais au final, moi, je trouve que c'est... Donc elle le dit que c'est une prise de risque. Essayer de vivre comme ça, en dehors d'un couple exclusif, etc., c'est une prise de risque. Mais en même temps, c'est assez énorme la prise de risque que tout le monde prend sans dire explicitement, bah tiens, avec cette personne, je vais fonder une relation hétérosexuelle exclusive.
Non. Hétérosexuelle ou non.
Ou non. Non, mais parce que, oui, elle se... Elle est un peu dans la critique du couple classique, donc hétérosexuel, quoi. Mais c'est vrai aussi.
Un peu pour tout le monde,
oui, quoi. C'est vrai pour tout couple.
Oui, après, elle dit aussi que c'est d'autant plus difficile qu'elle a été souvent quand elle essayait d'avoir des discussions sur ce sujet avec d'autres gens. Enfin, elle a quand même subi une mise à l'écart. Hein. Mais elle précise quand même que finalement, elle préférait cette marginalité à plutôt que de renier ses choix de vie, ses valeurs et de faire trop de concessions, quoi. Et que surtout, elle en a tiré un grand bénéfice sur le plan de l'estime de soi et de la liberté. Voilà. Et que de toute façon, l'autre choix qui est celui, en gros, qui est quand même imposé, voilà, il n'est pas facile non plus. Donc,
il est hyper casse-gueule.
Quitte à faire un choix difficile, autant retirer des bénéfices, quoi.
Non, il est carrément... Enfin, je pense qu'il est à terme beaucoup plus dangereux. Parce que, enfin, comme tu disais tout à l'heure, tu mets, y a une personne qui est censée tout apporter pendant une période variable, on va dire, puisque maintenant on est dans de la monogamie sérielle, elle appelle ça, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus un seul partenaire pour toute la vie, on a différents partenaires à différents stades de la vie, mais ça reste toujours un truc, un couple exclusif, quoi. Mais donc ça veut dire quand même qu'on attend tout d'une personne pendant une certaine période. Et c'est super, c'est hyper dangereux affectivement, quoi. Quelqu'un veut prendre la parole ?
Ouais, moi je trouve ça super intéressant, tous ces trucs. Je sais que moi, en tout cas, ça m'avait un peu tourné la tête, tous ces trucs hyper théoriques, en fait, sur ce que devrait être la relation dans l'absolu, qui devrait être bien, alors il faudrait avoir tant de partenaires, qu'on éprouve telle sensation, tout ça. Enfin, je trouve que c'est super intéressant à réfléchir à partir de ça. Mais moi, ce que j'en ai conclu, en tout cas, c'est qu'il faut quand même partir des relations, quoi.
Mais
pour
c'est
savoir
ce
qu'on a envie, en fait.
Monet, c'est ce qu'elle dit.
C'est à partir des gens avec qui on est qu'on voit ce qu'on a envie de faire avec eux aussi. Mmh. Moi, je sais que ça... Enfin, j'ai vu beaucoup de souffrance autour de moi quand on a voulu appliquer, quand moi, j'ai voulu appliquer du théorique sur de la réalité et où ça collait jamais, quoi. Ouais, et ça fait vachement de souffrance. Et y compris ces expérimentations-là, elles peuvent faire vachement souffrir.
Ouais.
Être super intéressantes, mais... Et que oui, enfin, il n'y a pas de solution simple. En fait.
Oui, mais c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit qu'elle en a chié, effectivement, quoi. Mais qu'une les relations toute formatée qu'on nous propose, souvent, elles nous en font chier aussi, quoi.
Oui, oui. Ouais.
Et puis elle parle de ça aussi, de partir. Elle dit, moi, ça c'est mon vécu, mes expériences. Mais c'est clair que ce que je raconte, c'est pas une recette de cuisine, et que de toute manière, pour tout le monde, c'est à partir des pratiques elles-mêmes qu'il faut avancer, quoi. Parce que elle a bien conscience qu'un discours comme ça, un peu abstrait sur les relations hommes-femmes, parce que là, elle parle pas que des relations hommes-femmes, elle parle des relations amicales, sexuelles, en général, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle donne pas de recette, quoi. Elle dit, voilà, ça c'est mon cheminement, avec pour objectif l'autonomie et la non-dévalorisation de la personne. Et voilà, elle partait de ça comme point de départ, ça je trouvais ça cool.
Ça, oui, c'est clair, c'est possible, mais voilà, c'est vrai aussi que dans l'idéal, nous on est toujours un peu... La théorie c'est un truc, la pratique c'est un autre. On est aussi avec dans la main, sous la patte, avec ces dynamiques-là. Du coup, c'est possible de les détruire, mais voilà, c'est un boulot.
Moi, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, ça a été hyper intéressant, tout ce genre de lecture et de choses comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'idéal vers lequel tendre. Et il ne faut pas remplacer une norme par une autre, ça c'est clair. Mais par contre, le fait d'analyser ce que c'est ce truc de l'amour et de voir ce que c'est les impositions qu'on a et qu'est-ce qui est possible de différent de faire, et ben ça permet de vivre, enfin de réfléchir un peu plus qu'est-ce qu'on a besoin, comment on peut gérer le truc, ça veut pas dire que d'un coup on est plus jaloux, que d'un coup on est plus ci, on est plus ça, on est plus ça, mais en tout cas se poser ces questions-là, je pense qu'on peut seulement tirer vers le meilleur et faire moins de mal à l'autre, et etc.
Oui, et puis dédramatiser vachement. Parce que le fait d'avoir vraiment en tête que le couple, enfin un peu comme tout ce que l'émission a un peu raconté, quoi, que le couple hétérosexuel exclusif, c'est ça, ça c'est le bonheur. Et que tout ce qui n'est pas ça, c'est soit de l'immaturité, soit du malheur. Du non-bonheur, enfin on appelle ça comme on veut, mais quelque part on sera jamais, on nous met un peu en tête que si on colle pas à cette norme là on va pas être plein, on va pas être entier, et on sera pas des vrais individus et je pense qu'il y a vachement de boulot à faire par rapport à ces normes là parce qu'en fait elles nous font vachement de mal au jour le jour, et que c'est bien de voir qu'en fait il y a une partie des choses qui continueront à faire mal si on démonte un peu, si on casse un peu toutes nos normes à la con, mais au moins ça aura repris peut-être la place que ça mérite, et non pas, ça sera pas des espèces de gros drames monstrueux énormes, c'est juste bah voilà, il se passe ça dans ma vie, ça me fait mal, mais c'est pas, il y a pas tout le reste qui dramatise et qui enfonce à fond en plus.
Oui, non, par contre ça trouve que c'est vachement moins chiant aussi, voilà, analyser certaines choses, chercher d'échanger, après voilà, toujours un état inconscient que voilà, on peut pas tout changer, que certaines dynamiques s'arrêtent, etc. Mais quand même avoir ce regard critique et chercher d'échanger les choses, ben voilà, du coup ça, on vit mieux dans notre peau et on a des relations plus vraies. Voilà, il faut pas avoir peur de mettre en discussion certaines choses, parce que en fait on arrive toujours à ça, dès qu'on met en discussion, on fait des choses vraiment que... Dès qu'on cherche un petit peu d'aller au-delà du formatage, au-delà de certaines normes, etc., et on cherche de vivre les choses comme on les sent, ben voilà, ça va mieux.
Ouais, moi je crois qu'aussi ce qui peut faire de la souffrance dans ces trucs-là, c'est qu'en fait on a deux espèces de normes. Il y a d'un côté le truc du couple qui doit être exclusif, blablabla, et ça on peut essayer de le défaire, et de l'autre côté l'oppression des femmes, quoi. Et moi je sais que parfois, et dans certains milieux qui se disent anarchistes ou quoi, c'est pas forcément simple, parce que les deux peuvent être très contradictoires dans la déconstruction, quoi. Parce que comme l'a bien montré Franck Aramé, déconstruire l'exclusivité pour une non-exclusivité, bien souvent ça aide les mecs, et en fait ça... ça permet surtout de tomber dans d'autres formes d'oppression des nanas. Du coup, c'est des enjeux qui sont quand même très complexes parce qu'il y a plein d'entrées.
Après, ouais. C'est, pour moi, c'est pas que, qu'il y a une question des femmes, parfois. Ça peut être vraiment la question générale, toi, vraiment comment nous impose la relation en couple, etc. C'est... Bon, pour moi, ouais, c'est un peu...
Bon, après, je crois ouais, que, enfin, quelle que soit la façon dont on choisit de vivre, de toute façon, ça ne va pas être une solution à l'oppression patriarcale, quoi. Mais je pense que ça fait partie du combat, quand même. Après, ouais. Voilà, c'est notre marge de manœuvre, elle est petite. N'empêche qu'elle existe quand même. C'est quand même un vrai contre-pouvoir à tout ce qui nous est inculqué, à comment on nous dit de fonctionner, en gros, quoi. Et qu'il ne faut pas cracher sur ce contre-pouvoir. Je pense que c'est vraiment un truc qui existe vraiment, quoi.
Ouais. Pas avoir peur de casser les dynamiques, mais voilà, de les construire, ouais, selon qu'est-ce qu'on ressent, selon notre exigence, les vraies, quoi. Pas les choses, les besoins qu'on a. Que l'on dit que c'est notre besoin. C'est...
Ouais, les goûts et les couleurs, ça se discute. C'est pas inné, c'est pas naturel, c'est pas. Même au niveau des émotions et des relations affectives, hein, c'est des trucs qui se discutent, quoi. Enfin, qu'on peut discuter, quoi.
De fait, on adore en discuter, on pourrait encore en discuter au moins 2 heures. Mais peut-être qu'on va bientôt finir le débat, parce qu'il est déjà 9h30. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, les filles?
Faut toi. Et ben maintenant, on va rendre hommage à une chanteuse qui chantait en 1935, Suzy Solidor. Elle chantait sur scène. Et voilà, on vous laisse écouter. C'est tout un monde, Suzy Solidor.
Les yeux, réveille-toi. Ouvre l'oreille, ouvre ta porte. C'est l'amour qui sonne et c'est moi qui te la porte. Ouvre la fenêtre à tes seins. Ouvre ton corsage de soie. Ouvre ta robe sur tes reins. Ouvre qu'on voit. Ouvre à mon cœur, ton cœur trop plein. J'irai le boire à ta bouche. Ouvre ta chemise de lin. Ouvre qu'on touche. Ouvre les plis de tes rideaux. Ouvre ton lit. Que je t'y traîne, il va s'échauffer sous ton dos. Ouvre la reine, ouvre tes bras pour m'enlacer, ouvre tes seins pour que je m'y pose, ouvre au fureur de mon baiser. Ta lèvre rose, ouvre tes jambes, prends mes flancs, dans ces rondeurs blanches et lisses, ouvre tes deux genoux tremblants, ouvre tes cuisses. Tout ce qu'on peut ouvrir dans les chauds trésors de ton ventre, j'inonderai sans me tarir l'abîme où j'entre.